Vous écoutez RTL.
Bonne journée avec RTL.
RTL. La curiosité est un vilain défaut.
De 14h à 15h, avec Sidonie Bonnec et Thomas Hulk.
Bonjour, bonjour, bonjour à vous. Bienvenue dans l'émission des Curieux. Merci d'écouter nos histoires tous les jours sur RTL, du lundi au vendredi, de 14h à 15h. Bonjour Thomas.
Comment ça va Sidonie?
Très très bien, et vous-même?
En pleine forme? Bah écoutez, ça va très bien. Ici, vous le savez, on aime les grands destins, dévoiler les secrets de ceux qui ont fait notre histoire. C'est ce que l'on vous propose tout à l'heure, vers 14h30 sur RTL. On va humer les parfums et donc partager l'intimité de nos rois, reines et empereurs, Napoléon, Henri IV ou encore Marie-Antoinette.
Vous emportez-vous des parfums?
Non, j'ai arrêté de me parfumer depuis plusieurs années.
Et ben moi c'est pareil. Et tout de suite, George Michael.
On arrête de raconter nos vies,
c'est vrai. On apprenait sa mort il y a un an, jour pour jour. On découvre ce destin fulgurant et fracassant.
RTL.
Sidonie Bonnec, Thomas Hugues. Jusqu'à 15h sur RTL.
George Michael, dont la maison de disques Sony ressort l'un de ses albums, peut-être d'après notre invité Eric Jean-Jean, le meilleur de ses albums. Listen Without Prejudice, écoutez un extrait, c'est Praying for Time. Eric, Jean-Jean, on va raconter l'histoire de cet album. Ça peut sembler surprenant que Sony le ressorte parce que ça s'est terminé en procès, cette histoire-là.
Ça s'est terminé en procès parce que c'est un album qui n'a pas vendu comme prévu. Il faut dire que le précédent album, qui était le premier album solo de George Michael, s'était vendu à 25 millions d'exemplaires. Donc, légitimement, on était en droit d'attendre qu'il se vende au moins autant et peut-être même un petit peu plus. Et ça n'a pas été le cas. Alors, pour plein de raisons qu'on pourrait peut-être expliquer par le fait qu'à ce moment de sa carrière, George Michael est en train de vouloir avoir une crédibilité musicale, c'est-à-dire il appellera l'album Listen Without Prejudice, qui littéralement veut dire écouter sans a priori, parce que George Michael quand même, y compris à l'époque de Face, rappelez-vous, on a tous adoré ce look-là, mais quand même, ouais, il avait une tête de garçon coiffeur, il avait des jeans hyper moulburn et il faisait un déhanché, comment dire, hautement suggestif. Là, en l'occurrence, il va essayer de se mettre en costume, il va essayer de faire de la musique beaucoup plus chic. D'ailleurs, vous écoutez la production de cet album, elle est absolument formidable, et il va refuser de mettre sa bobine sur la pochette.
Donc, il veut pas être en photo sur la pochette.
Et c'est pour ça que ça marche moins bien, parce qu'il ne se montre pas. Est-ce qu'il va même jusqu'à ne pas faire de promo, George Michael, pour cet album?
Il va pas faire de promo. Il va dire « Je ne veux que vous n'écoutiez que ma musique. Écoutez sans aucun a priori. » S'il avait pu, je crois, il aurait fait un album blanc, avec rien de marqué dessus, et il aurait fait découvrir aux gens.
Et donc, il va faire, lui, George Michael, un procès à sa maison de disques, à Sony, qui elle-même va se retourner contre lui. Ouais. Ça va se terminer comment, ça?
Ça va se terminer par un arrangement, comme d'habitude. En l'occurrence, là, cet album va moins bien marcher. Donc, George Michael va considérer que c'est de la faute de la maison de disques, qui a pas joué le jeu. Mais comment jouer le jeu quand George Michael veut pas donner d'interview?
Ben oui.
Il veut pas montrer sa tête sur les pochettes. Mmh. Il acceptera juste d'être vaguement dans un clip vidéo, mais pas plus. Du coup, George Michael dit, c'est votre faute, vous avez pas assez bien travaillé. La maison dit, mais non, t'as pas voulu travailler. Donc, procès qu'il va perdre en 1980. Devant une cour à Londres, et finalement il y aura un appel, et puis avant que l'appel soit déclaré en 94, il y aura un arrangement.
On va réécouter bien sûr des extraits des plus grands succès de George Michael, mais d'abord on va parler de son côté sombre, découvert notamment après sa mort le 25 décembre dernier. De quoi il est mort?
Alors un mélange de plusieurs choses. D'abord c'est sa vie qui l'a tué, c'est horrible à dire, mais voilà, la drogue, beaucoup d'alcool, une énorme dépression qui ne l'a pas quitté depuis la mort de son compagnon Anselmo dans les années 90, suivi 3 ans après de la mort de sa maman.
Donc il meurt seul, George Michael?
Ouais, il meurt seul, obèse, façon Elvis Presley, quoi. Alors il meurt de deux choses, d'après le rapport d'autopsie. Il avait beaucoup trop de graisse dans le foie, et puis une myopathie du cœur, c'est-à-dire à force de donner des coups de boost à son cœur, vraisemblablement à cause de la cocaïne, il est fragilisé, et voilà tout ça.
Donc une mort naturelle, entre guillemets.
Une mort naturelle,
ouais, mais il s'est pas suicidé.
Non, il s'est pas suicidé, mais il avait une vie suicidaire. Il avait un comportement. Sans doute, il n'osait pas se suicider et donc il s'est suicidé à petit feu.
Et il y a une époque où il était totalement accro au cannabis aussi. Il fumait jusqu'à 23-25 joints par jour, ce qui semble totalement ahurissant.
Mais c'est-à-dire qu'il ne voit pas le jour. Ouais. 25 joints par jour, c'est ce qu'il déclare à un journal dans les années 90, un journal britannique, Voilà, il dit qu'il soigne sa dépression à coups d'alcool et de cannabis. Je crois qu'il y a, eu différentes fractures dans la vie de cet homme. La première, c'est bizarrement de naître dans une famille où la maman, sa délicieuse maman, un frère homosexuel qui meurt le jour de sa naissance. Et donc, du coup, il va porter ce truc-là tout au long de sa vie. Ensuite, va s'ajouter le fait qu'il est pas sûr, ou en tout cas, il veut pas s'avouer qu'il est totalement homosexuel. Il va y avoir des idées autour de sa bisexualité. Et puis après, l'histoire d'amour terrible avec Anselmo.
Alors, on va raconter tout ça dans la curiosité et aussi l'histoire de cet album qui fait de George Michael une star solo. C'est Faith, sorti en 1987. Dedans, il y a un tube, I Want Your Sex. On va vous raconter comment c'est devenu un tube mondial.
Bonne journée sur RTL.
Sidonie Bonnec, Thomas Hugues, les curieux sont sur RTL.
George Michael nous accompagne sur RTL cet après-midi avec Freedom.
La curiosité est un vilain défaut.
Soyez fiers d'être curieux avec RTL.
Sidonie Bonnec, Thomas Hugues. Jusqu'à 15h sur RTL.
George Michael, star planétaire, disparu le 25 décembre dernier à 53 ans et toujours parmi les meilleures ventes de disques. Aujourd'hui, on vous dévoile ses secrets avec Eric Jean-Jean sur RTL. George Michael, qui est devenu une star avec le groupe Wham, vous vous souvenez, c'était en 1982 grâce à des tubes planétaires. Il décide de se lancer en solo en 1987 avec l'album Faith. I Want Your Sex, Eric Jean-Jean, cette chanson, elle fait scandale à sa sortie, on s'en rappelle, c'était le 30 octobre 1987. Est-ce qu'elle est censurée ?
Elle est censurée par la BBC, par MTV, et au fond, c'est un malentendu. Parce que, bon, évidemment.
Qu'est-ce qu'il veut ? Il veut le sexe de qui ?
Non, mais il n'y a pas besoin de Google Traduction pour comprendre que I Want Your Sex.
Je veux te faire l'amour,
quoi. Explicite. Ouais. Oui, je veux ton sexe, c'est beaucoup plus que je veux te faire l'amour, c'est charnel et physique. Et le clip vidéo qui va arriver derrière va être hautement sexué, sauf que. À la fin, la dernière image, ça met « Try monogamy ».
Il faut essayer d'être monogame, c'est ça ?
Ouais, et donc en fait, il montre des postures sexuelles, il y a un truc hyper sensuel dans la chanson évidemment, mais aussi dans le clip vidéo. Et à la fin, la dernière image que finalement peu de gens ont regardé.
Et la BBC non plus, ils l'ont pas visionné jusqu'au bout, c'est pour ça qu'ils l'ont censuré.
Mais la BBC, c'est pas la première fois qu'ils censurent des titres, hein, ne serait-ce qu'avec les titres, etc. Des fois, la reine s'en mêle. Là, en l'occurrence.
Mais c'était de l'ironie, alors je comprends pas bien.
C'est pas de l'ironie, c'est du sexe, mais c'est le sexe dans le couple.
Et alors, avec qui il est en couple à l'époque, George Michael? Avec la, il y a une histoire de maquilleuse brésilienne, c'est ça?
Oui, mais il y a eu beaucoup de femmes. En fait, paradoxalement, pour un type qui fera son coming out,
il est bisexuel en fait à l'époque.
Ouais, je crois que c'est pour cacher quelque chose qu'il n'ose pas se dire à lui-même ou qu'il n'ose pas avouer.
Il a essayé d'être hétéro et c'était pas ce qu'il était, quoi. Bah, simplement.
Vraisemblablement non, puisque après la seule et grande histoire d'amour de sa vie, il l'a vécu avec un homme. Mais en l'occurrence, rappelez-vous. Thomas, on a tous bavé devant les clips vidéo de George Michael dans les années 90. C'était l'époque aussi des
supermodèles. Du monde,
exactement, les supermodèles. Linda Evangelista, Christy Turlington, qui pourtant était plutôt dans le rock. Il y avait
Naomi Campbell.
Estelle Lefébure. Estelle Lefébure dans le clip Too Funky. Il y a les plus belles filles de la planète. On n'ose même pas imaginer que cet homme ne les regarde pas avec convoitise. En l'occurrence, pas tant que ça.
Oui, comment va-t-il faire son coming out finalement, George Michael? Il le fait volontairement ou un peu contraint et forcé?
Il le fait pas. Alors, il le fait en deux temps, en fait. Ouais. Lui, il a l'impression qu'il l'a fait lorsqu'il sort l'album Holder. En 1996, il sort un album qu'il dédie à l'homme de sa vie, qui s'appelait Anselmo, qui était un Brésilien qui est mort du sida. Et il est mort en 1993, cet homme-là. Et donc, l'album Holder, qui sort 3 ans après, est un album qui est dédié Jesus to a Child, par exemple. Voilà, ça, c'est Jesus to a Child. Ça, c'est une chanson pour Anselmo. Et donc, cet album est dédié à cet homme qui a été vraiment l'homme de sa vie.
Donc, pour lui, c'est très clair. Il a fait d'une façon élégante, légère, son coming out avec ce disque.
Oui, et il le fait de manière très, très classe, très feutrée. Ouais. C'est la période où vraiment, là, il a les costumes, il a la barbe taillée vraiment belle, etc. Voilà. Et donc, pour lui, c'est réglé. Sauf que, il dit, je croyais que tout le monde s'intéressait à ce que je racontais dans ma musique, mais pas du tout. En fait, c'est en 1998 que le monde entier, avec les tabloïds, vont apprendre qu'il est homosexuel parce qu'il va se faire serrer par des flics en civil, alors qu'il est en train de faire une exhibition parce qu'il veut avoir un rapport sexuel avec un garçon dans un parc à Beverly Hills. Et là, évidemment, ça va être le scandale. La presse était assez friande de ce genre de scandale à l'époque. Donc voilà, il y a deux policiers en civil qui sont là justement pour gérer les bonnes mœurs de ce parc et George Michael qui arrive et voilà. Et donc ça va faire le tour du monde et c'est à ce moment-là que la planète entière va apprendre qu'il est homosexuel. Et lui, il va tomber de sa chaise parce que lui, bah, il pense qu'il a tout dit dans cet album. Comment ça, vous êtes surpris? Je vous l'avais déjà dit. Enfin, voilà quoi.
George Michael, c'est aussi un chanteur qui n'a pas forcément bien vécu la célébrité. On vous le raconte sur RTL juste après Fantasy.
say you will, but then you tell me you won't.
Bonne journée sur RTL.
One day you say you love me, the next you tell me you don't. One day you say you will, but the next you tell me you won't. Hey little baby, there ain't much point me hanging around, yeah.
Can you want the love?
One day you make me feel that your love is in my hands. One day you say you'll stay, but the next you're changing your plans. Hey little baby, there ain't much point in hanging around.
There ain't much point in hanging around, yeah.
Cause if you ain't got time for me, I found another fantasy.
RTL. Bon après-midi sur RTL.
La curiosité est un vilain défaut.
I'm so scared. I'm so scared.
Sidonie Bonnec, Thomas Hugues. Jusqu'à 15h sur RTL.
Et on découvre dans la curiosité avec Eric Jean-Jean l'histoire, la carrière de George Michael. On peut en ce moment redécouvrir une vidéo, la vidéo de Freedom 90, Freedom 80, Liberté 90, enregistrée pour MTV. Écoutez. De cette chanson, Eric?
Alors c'est une histoire en plusieurs temps, puisqu'elle sera enregistrée pour la première fois dans une version qui n'est pas tout à fait celle-là et qui est un petit peu moins punchy, on va dire, à l'époque de Wham. Freedom, c'est liberté. Hein. Et il va la réenregistrer justement après l'album Face, parce que justement il veut essayer de se libérer de cette fameuse image. Ce que vous me disiez hors antenne, Thomas, est tout à fait juste, c'est-à-dire que George Michael, si on ne réfléchit pas, il a l'image d'un type à peine sorti d'un boys band, en l'occurrence le duo qui formait avec Andrew Ridgely, qui s'appelait Wham. Mais en l'occurrence, c'est pas du tout ça. C'est un immense mélodiste. C'est un très, 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 très grand chanteur. C'est un immense artiste. Il a, la dernière tournée, c'était Symphonica et c'était vraiment formidable. Mais il a du mal à se décoller, justement, de cette image. Vous savez, le pantalon, la mèche blonde.
Ouais. Et c'est ce qu'il raconte dans la chanson, là.
Et ben, il se libère de ça. Et dans le clip vidéo, d'ailleurs, c'est assez flagrant. C'est-à-dire qu'on retrouve tous les symboles des premiers clips, notamment de Face. Donc, le fameux jukebox, mais aussi les fameuses lunettes Ray-Ban, vous savez, qui réfléchissent de couleur un peu jaune-verte. Ouais. Et il détruit tout ça. Ça veut dire qu'il a envie de changer d'image. Et en fait, le grand drame de la vie de George Michael, c'est qu'il n'aura jamais vraiment réussi, en tout cas dans sa tête, parce que sans doute dans la nôtre c'est arrivé, hein, mais il n'aura jamais sans doute réussi à switcher et à devenir l'artiste chic et classique qu'il a envie de devenir à la Elton John. On aura toujours en tête le fait qu'il a quand même fait Wham.
Il y a quand même une chanson qui l'a aidé à sortir de cette image de miné acidulé dont on parlait, cette image de Wham. Il partage l'affiche avec une grande star, c'est Aretha Franklin.
Alors ça arrive en 86.
I knew we were waiting for me. Je savais que tu m'attendais.
On est à la jonction, à la fin de Wham et le début de sa carrière solo, c'est ça?
Exactement. Ouais. On est au moment où il a envie de changer d'image, envie de changer d'atmosphère. Et ce qu'il faut remarquer, c'est que c'est pas lui qui va chercher Aretha Franklin. C'est sur un album d'Aretha Franklin qu'apparaît cette chanson.
Donc c'est elle qui le désire.
C'est elle qui le désire. Mmh. C'est elle qui veut aller travailler avec lui. Cette chanson leur vaudra à tous les deux d'ailleurs un Grammy Awards, la meilleure performance en duo. Et être avec la reine de la soul, c'est-à-dire top crédibilité. 200% Aretha Franklin, Madame Aretha Franklin, quand on s'appelle George Michael et justement qu'on veut casser avec cette image acidulée de Wham, c'est ce qui pouvait lui arriver de mieux, mais ça suffira pas.
Aretha Franklin, dont on racontera l'histoire dans la curiosité, ce vendredi sur RTL, on a parlé de son look, il en a changé de look en quittant Wham. Vous l'avez rencontré, vous, Eric, pour une interview, et il y a une petite histoire de look d'ailleurs, c'est quoi?
C'est hyper drôle.
Il s'habille comme vous en fait, c'est ça?
Ouais, c'est ça, il m'a tout copié. En fait, ça se passe en 1996 pour la sortie de l'album Older. Et Thomas, vous rappelez sans doute de cette mode de garçon à l'époque. Moi, je portais un petit bouc à l'époque. Les cheveux plus courts. Et c'était la mode aussi de mélanger le noir et le bleu marine.
Je milite dans le club des glaces.
Ça existait, ça? Je m'en rappelais pas du tout.
Si, on mettait souvent des chemises bleu marine avec des costumes noirs ou des costumes bleu marine.
Et donc là, vous arrivez à l'interview.
Et donc j'arrive à l'interview. Ça se passe dans les locaux de MTV à Londres. Ils donnaient ce fameux concert dont on a écouté un extrait, justement, Freedom 90, le fameux MTV Unplugged. Il y avait une grande interview pour MTV. Moi, j'étais pour TF1 à l'époque et je faisais l'émission pour TF1 et j'enregistrais cette interview pour TF1. Et j'arrive et j'ai un costume noir, une chemise bleu marine et un gilet noir et un petit bouc. C'est-à-dire exactement la même bobine que lui, qui me regarde genre, et comment ça se passe sinon? Donc voilà, sinon l'entretien était formidable.
Et ça s'est bien passé avec
ouais,
Jean-Michel.
Bien sûr, bien
bon,
sûr.
Merci beaucoup Eric, de nous avoir fait découvrir comme ça le talent de George Michael. Merci Eric.
Salut.
RTL. La curiosité est un vilain défaut.
Même si t'es mon chant, file au gré du temps qui passe. Et si ma voix te dérange, je ne me sens pas à ma place. On n'est pas bien là à parler bien et de tout, à parler lui et de nous. J'aime quand tu dis moi je m'en fous, je m'en fous. Nos regards se sont croisés et tout à coup je divague. Je t'aime et ça tu le sais. Assis tous les deux, des je t'aime devenus poussière. Je me sens un peu comme dans un autre univers. Univers, oh, on n'est pas bien là à parler bien et de tout, parler de lui et de nous. J'aime quand tu dis moi je m'en fous, je m'en fous. Oh, on n'est pas bien là à parler bien et de tout, à parler de lui et de nous. J'aime quand tu dis moi je m'en fous, fous. Souvent les histoires s'effacent et sans retour en arrière. C'est mon secret, j'en suis fier. Je mets le passé en présent. Ce qui s'est passé reste grand. Et toi et moi c'est la vie. Ma vie commence aujourd'hui. Yeah. On n'est pas bien là.
et moi je m'en fous, oh, on n'est pas bien là, à parler bien et de tout, oh, oh, à parler de vie et de nous. J'aime quand tu dis moi je m'en fous, oh, oh.
On n'est pas bien là, mais il a raison, type, sur RTL.
RTL.
Première radio de France. RTL.
La curiosité est un vilain défaut.
Tout de suite, les parfums de l'histoire sur RTL. Bonjour Elisabeth de Feydeau.
Bonjour.
Bienvenue, vous êtes historienne passionnée de fragrances et vous avez enquêté sur les parfums des rois, des reines, des empereurs. Tiens, justement, un empereur pour commencer, une première anecdote qui concerne Napoléon. Il avait une passion pour le bain et ça obligeait son valet de chambre à être... Quoi, toujours prêt à n'importe quelle heure du jour et de la nuit, c'est ça ?
Oui, oui, on faisait chauffer de l'eau en permanence parce que l'empereur, ça pouvait lui prendre à tout moment l'envie de prendre un bain.
Et il voulait un bain le plus chaud possible.
Oui, oui, parce qu'il...
Au point de se brûler la peau ?
Alors, on ne sait pas s'il se brûlait la peau, mais il avait eu tellement froid quand il était pensionnaire à Brienne que cette passion de la chaleur lui était venue et il voulait absolument avoir cette eau. Il restait très longtemps dans son bain, donc il rechargeait en permanence avec de l'eau chaude.
Napoléon, obsédé par son hygiène et accro à l'eau de Cologne. C'est un drôle d'empereur que l'on vous dévoile sur RTL. À toutes les curieux.
I was up before the dawn, and I really have enjoyed my stay, but I must be moving on, like a king without a castle, like a queen without a throne. I'm an early morning lover, and I must be moving on, yeah, yeah. You say is the undisputed truth, but I have to have things my own way to keep me in my youth. Like a ship without an anchor, like a slave without a chain, just a thought of those sweet ladies as a ship out through my veins.
Un tube de 1979, ça a bercé ma jeunesse. Supertramp avec Goodbye Stranger.
RTL.
On raconte qu'à Versailles, ça sent mauvais. C'est vrai qu'il y avait cette histoire de l'hygiène qui recule à partir de la fin du XVIe siècle parce qu'on craint que l'eau entre par les pores de la peau, fasse un grand désordre à l'intérieur. Les médecins conseillent de ne plus se laver. Et donc c'est pour ça que le parfum va devenir cet antidote en fait pour rester en bonne santé.
La curiosité est un vilain défaut.
Avec l'historienne Elisabeth de Fédot, on découvre les parfums des grandes figures de notre histoire. Première surprise, Napoléon, on en parlait à l'instant, et sa passion pour les bains chauds, parce qu'il a eu tellement froid lors de certaines campagnes ou lors de ses, l'époque où il apprenait à faire la guerre, c'est ça ?
Oui, et surtout ses années de pensionnat, quand il
était
enfant. Et ses
années de pensionnat, et donc il aimait les bains chauds, mais aussi il avait un sens de l'hygiène. On vient de vous entendre dans la mise en onde de notre réalisateur André Facetta, qui était rare pour l'époque.
Ah mais tout à fait. Alors il avait l'odorat très fin,
oui.
Il était très sensible aux odeurs, c'est d'ailleurs par les odeurs qu'il tombe fou amoureux de Joséphine, qui avait cette peau brune et parfumée comme il le dit lui-même, et il avait un sens de l'hygiène absolument inhabituel qui lui vient certainement de cette maladie qu'il contracte au moment du siège de Toulon en 1793, donc la gale qui est la maladie de la saleté, et il l'a eu de nature très virulente, donc il était traumatisé par cette histoire au point de vouloir prendre des bains sans arrêt, et il était extrêmement propre, il avait le soin des ongles, mais aussi se brossait les dents, enfin, tout ce qui était contraire aux usages de l'époque.
Et puis c'était un gros bosseur aussi, Napoléon, oui. Gros bosseur et petit dormeur, sa journée,
oui.
Elle commençait à quelle heure ?
Alors, il avait plusieurs journées, plusieurs débuts de journée, en fait. Il se levait à 2h du matin, où là, il n'est pas rare qu'il prenne un bain à ce moment-là. C'est pour ça, d'ailleurs, qu'il y avait de l'eau chaude en permanence pour pouvoir satisfaire donc cette demande. Et puis, il se recouche et il se relève à nouveau à 7h du matin. Et là, véritablement, il y a le premier bain. Et quand on étudie les archives de la maison de l'empereur, et notamment son linge de bain, parce qu'il y a tout ce cérémonial avec du linge, on se rend compte qu'il devait prendre un bain quotidien.
Il existait des peignoirs déjà à l'effigie avec un grand N ou non ?
Non.
C'était plutôt à base de toile ou de serviettes.
C'était des chemises de coton ou de batiste. Ouais. Et puis aussi, il utilisait un madras autour de la tête. C'est assez chic. Hein,
comme un bonnet de douche, quoi.
Exactement, ouais. Pour avoir chaud à la tête.
Mais il est resté longtemps dans son bain. Il faisait quoi, Napoléon ?
Il lisait ses dépêches. Il pouvait dicter également des notes.
Il
se relaxait. Oui, alors oui, bah, d'abord, il y avait beaucoup de monde autour de lui. Hein. Pour son bain, il y avait quand même 4 valets de chambre, plus son ordonnance, Constant, qui s'occupait de son bain.
Mais il acceptait que d'autres personnes viennent, puisque ça durait longtemps. Son temps, j'imagine, était compté.
Oui,
et
oui.
Donc, il acceptait que des généraux, des personnages de l'État viennent
bien
ce moment-là.
Oui, oui. Alors, pas tout le monde, évidemment.
Oui,
c'est quand
sûr.
Même des petites entrées. Il y avait toujours son médecin, hein, son chirurgien qui était là, évidemment. Oui. Et puis, ça arrivait, oui, qu'il y ait des amis très proches qui viennent pour le consulter. C'était un moment un petit peu, une sorte de parenthèse, si vous voulez, dans sa journée, où il était disponible pour écouter d'éventuels conseils ou des demandes aussi.
Elisabeth de Fédot, vous publiez L'eau de rose de Marie-Antoinette et autres parfums de l'histoire aux éditions Prisma. On y découvre aussi un Napoléon accro à l'eau de Cologne. Comment il l'utilisait ?
Alors, il faut savoir que l'eau de Cologne, qui était ce produit donc inventé par un Italien à la fin du XVIIe siècle, en 1695 exactement, qu'on appelait l'aqua mirabilis, l'eau merveilleuse, l'eau des miracles, hein, au sens littéral du terme, était un produit salutaire pour la santé, c'est un produit d'hygiène, mais aussi un produit médical.
On le buvait, vous voulez dire ?
Alors, bien sûr, parce que le médicament, c'est l'élixir, hein, donc on le boit, en purification interne, mais aussi en purification externe. Donc Napoléon découvre les bienfaits de l'eau de Cologne lors de la campagne d'Italie, mais il va surtout l'utiliser au moment de l'expédition en Égypte, où on peut imaginer que cette chaleur, c'est qui colle un peu à la peau, il laisse besoin de se rafraîchir, de se tonifier en même temps. Donc il l'utilise après le bain en friction.
Il en met un petit peu dans son bain aussi, quelques gouttes.
Oui, bien sûr, pour désinfecter l'eau. Hein, c'est un antiseptique aussi dans sa composition. Et puis, il la boit au point que son fournisseur attitré, donc Jean-Marie Farina, va lui confectionner un rouleau, une bouteille en forme de rouleau, qu'on appelait le rouleau de l'empereur, et qui glissait dans ses bottes pour pouvoir l'avoir en permanence sur lui. Et il en buvait, un peu comme un schnapps, si vous voulez, quelques gouttes avant une bataille.
Il devait être malheureux à Sainte-Hélène, alors, en exil, Napoléon, plus d'eau de Cologne ?
Ben non, parce que justement, il a tout prévu et son fidèle mamelouk avait la recette de l'eau de Cologne. Puisque comme c'était un produit médical, donc la recette était déposée à l'Académie de médecine et on pouvait reproduire cette recette. Donc le mamelouk, avec les produits du bord, va reproduire cette eau de Cologne que vous pouvez sentir si vous allez à l'osmothèque à Versailles, puisque le maire de Versailles, André Damien, l'ancien maire de Versailles, ouais, avait retrouvé cette recette dans une commode qui était passée en salle des ventes, et on avait retrouvé cette recette. Et du coup, on l'a reproduit.
C'est classe, ça, d'aller respirer l'eau de Cologne de Napoléon. La curiosité continue sur RTL. Dans un instant, on écoutera MC Solar et on vous racontera l'histoire d'une victime de la mode, Marie-Antoinette.
De la mode, tel est son nom de code.
La curiosité est un vilain défaut. Sidonie Bonnec, Thomas Hugues sur RTL.
I found a love for me. Darling, just dive right in. Follow my lead. I found a girl. Beautiful and sweet. I never knew. Someone waiting for me. 'Cause we were just kids when we fell in love, not knowing what it was. I will not give you up this time. Darling, just kiss me slow. Your heart is over.
C'est perfect, c'est Ed Sheeran sur RTL.
La curiosité est un vilain défaut.
Ah, qu'on est bien quand on est dans son bain.
Bon, allez, symphonie-vous de bon cœur. Et insistez bien sur les pieds.
Un ambassadeur russe dira de Louis XIV qu'il puait comme un animal sauvage.
Allez-y, franchement.
RTL.
Les aristocrates avaient jugé bon de dissimuler leur pestilence en se frottant des chiffons odorants sur le corps.
Ce gueux finasse sans arrêt. Ah.
Et plus tard, en s'aspergeant allègrement de parfum.
Allez, mets les
au corps. Sidonie Bonnec, Thomas.
Coquetterie de nos rois, de nos reines, avec l'historienne Elisabeth de Feydeau. Alors après Napoléon et son eau de Cologne, on va dévoiler maintenant les secrets de beauté et de parfum de Marie-Antoinette. Son arrivée à la cour de France, c'est un événement, notamment pour le commerce de luxe parisien. Qui va en profiter ?
Bah, tous ces fournisseurs de la cour, et surtout, bien sûr, tous ceux qui sont les marchands de la mode et les parfumeurs, ils voient en la jeune dauphine une proie facile.
C'est-à-dire qu'ils viennent tous démontrer leur matériel,
absolument,
leur proposition.
Ils cherchent à la flatter, ils cherchent à attirer sur eux, bien sûr, ces regards bienveillants. Et puis, surtout, c'est qu'elle est très jolie. Ce qui n'était pas le cas des précédentes reines. Donc là aussi, c'est une bonne ambassadrice.
C'est une belle vitrine, si j'ose dire.
C'est la Kate Middleton de l'époque, si vous voulez.
Et, voilà. et parmi ces marchands de luxe, il y a notamment la modiste Rose Bertin. Oui. Elle va devenir... on peut presque le dire, une proche de Marie-Antoinette, à quel point ?
Elle est très très futée, Rose Bertin, donc elle est une picarde, d'origine picarde, et on dit souvent que Coco Chanel s'est inspirée de la rue pour créer la mode, mais Rose Bertin, elle s'était inspirée des champs pour créer justement la mode à la course, qui avait fait un scandale énorme, puisqu'elle s'était inspirée des tenues des paysannes, et elle habillait la reine avec des bonnets à la laitière, avec des robes à la gaule, ce qui faisait dire à tous les courtisans que la reine était habillée comme une femme de chambre, donc évidemment c'était extrêmement choquant, puisqu'à l'époque, le costume de cour marquait le rang où vous occupiez dans la société.
Et cette proximité, parce que c'est une roturière qui avait du coup accès aux appartements, à la chambre de la reine, etc.
Et là, c'est aussi choquant, parce que les fournisseurs n'avaient jamais accès au roi et aux reines. C'était, en tous les cas pour la reine, la dame d'Atour qui s'occupait des commandes. Et là, la reine aime tellement discuter chiffon qu'elle convoque Rose Bertin. Elle écourte même la grande toilette où tous les courtisans viennent avec un rôle très précis auprès de la reine pour se retirer dans ses petits appartements et puis discuter avec Léonard le coiffeur et Rose Bertin la modiste. Donc tout ça, ça fait scandale évidemment.
Toutes ces histoires, Elisabeth de Feydeau, vous les publiez, les racontez dans L'eau de rose de Marie-Antoinette aux éditions Prisma. Cette eau de rose, est-ce qu'elle a été créée juste pour elle ? J'imagine qu'elle était à base de rose. Qui lui fournissait ?
Alors, elle avait plusieurs parfumeurs, mais un particulièrement qu'elle apprécie beaucoup, c'est Jean-Louis Farjon, qui était issu d'une grande dynastie de parfumeurs de Montpellier et qui vient à Paris avec ce projet fou de devenir le parfumeur de Marie-Antoinette, ce qui va réussir. Donc il lui crée des eaux de rose, parce que c'est sa fleur préférée, mais aussi, ce qui est très nouveau à l'époque, le bouquet floral. Donc le bouquet aux mille fleurs, qui était une eau spiritueuse à partir de toutes les fleurs de toutes les saisons, ce qui est vraiment un grand progrès technique.
Donc il fait même avancer la technique de fabrication des parfums, Jean-Louis Farjon.
Oui, c'est un scientifique de l'époque et il a cette phrase incroyable pour la fin du XVIIIe siècle, puisqu'il il participe à tous ces progrès de la distillation, de l'enfleurage, etc. Mais aussi, il sait que la nature, même aussi belle soit-elle, ne pourra pas tout donner aux parfumeurs et qu'il faut que ce soit la chimie. Et on est à la fin du XVIIIe siècle, donc un siècle plus tôt, il annonce ce qui sera la grande révolution en parfumerie, qui est l'introduction des notes de synthèse.
Marie-Antoinette, victime de la mode, on a joué sur ces mots et sur la chanson de MC Solar, mais aussi reine de mode, copiée partout en Europe, on peut le dire.
Il y a des gravures d'elle qui circulent partout en Europe et on copie, donc bien sûr dans les autres royaumes,
ses tenues,
ses parfums, ses coiffures, mais également à Paris et en province, si vous voulez, vous aviez les courtisans à la cour, bien sûr, mais aussi toute cette haute bourgeoisie qui commence à apparaître en France et qui n'a pas accès à la cour, mais qui a l'argent pour payer les tenues. Et c'est pour ça que Farjon a bien compris que les courtisans ne paient pas leurs dettes, mais que tous ces grands bourgeois qui ont envie de ressembler aux aristocrates, eux, ils vont payer leurs factures.
Une impératrice de légende à venir sur RTL, vous reconnaissez cette voix ?
Voilà, princesse.
Alors, elle a bien sauté.
Merveilleux. Elle a la légèreté d'un chamois et l'adresse d'un écureuil. Ah.
La voix française de Romy Schneider dans Sissi. On découvre les secrets de beauté d'une impératrice dans un instant sur RTL.
Victime de la mode. Quel est son nom de code ?
RTL. La curiosité est un vilain défaut.
Colore le monde. Sans feutre, sans épreuve ni bombe. Jamais répond
bien de retrouver Les Innocents sur RTL avec Color.
RTL.
Ah là, là, il n'y a pas assez de mousse.
Il n'y a pas assez de cheveux non plus.
La curiosité est un vilain défaut. Aïe, aïe, aïe,
aïe. J'aimerais bien dans ma salle de bain faire de la musique à la place du bain.
Denis Bonnec, Thomas Hugues.
La douche de psychose, le bain de la folie des grandeurs et les destins extraordinaires de nos rois et reines qui se parfumaient et grâce à l'histoire de leur parfum, finalement, on découvre leur intimité avec Elisabeth de Fédot, notre invitée. L'hygiène du roi ou de la reine ou de l'empereur, c'est aussi un enjeu politique ?
Ben oui, parce que c'est une question de santé. Et on sait que la santé est conservée par une bonne hygiène. Mmh. La première des guérisons, c'est d'être propre.
Ouais. Alors le roi le plus sale, je ne sais pas si on peut lui décerner ce titre, mais en tout cas on a envie de le faire, c'est sans doute Henri IV, ce qui ne plaisait pas à la délicate Marie de Médicis. Comment se passe leur nuit de noces ?
Ah bah c'est une catastrophe. Bon, déjà, c'est vrai que Marie de Médicis n'a pas vraiment été épousée par amour. Hein. Il fallait un héritier à la France, donc Henri IV, bah, il y va. Hein. Il fallait absolument remplir son rôle. Et Marie de Médicis avait entendu dire quand même qu'il sentait très mauvais, hein, puisqu'une de ses maîtresses avait dit qu'il puait la charogne. Donc elle arrive avec Princesse Florentine, avec tous ses parfums fins de l'officine Santa Maria Novella, et elle s'en met partout, elle en dispose dans la chambre pour essayer d'avoir une antidote.
De contrer tout
à,
ça.
Voilà, une antidote à la mauvaise odeur, mais rien n'y fait, elle tombe en pamoison, enfin, elle est évanouie, alors pas pamoison d'amour, mais au contraire, elle est assaillie par les mauvaises odeurs et elle est tombée dans les pommes, absolument, elle se trouve mal, elle est oppressée au point de tomber
bon, ça a quand même marché.
Perte connaissance. Oui, ça c'est marchait 9 mois après, on a eu le futur Louis XIII qui est né.
Est-ce que quand même Henri IV a essayé de faire des efforts pour sentir bon, pour plaire à Marie de Médicis ?
Alors, non, là, pas du tout, pas du tout. Non, non, et alors la pauvre, d'ailleurs, elle utilise une eau qui est du couvent, c'est toujours Santa Maria Novella, qu'on a appelée l'eau bienfaisante parce qu'elle était réputée anti-hystérique, parce qu'il y avait beaucoup de scènes de ménage malgré tout entre eux, parce que Henri IV a de nombreuses maîtresses, il est aussi pingre avec elle, alors qu'elle a quand même épongé la dette du royaume. Et,
oui, il est tout pourri comme Marie, lui.
Voilà, il n'est pas terrible, il n'est pas terrible. Mais alors, le parfum lui vient vraiment sur la fin, quand il tombe fou amoureux, il a plus de 56 ans, il tombe fou amoureux de Charlotte de Montmorency, qui elle en a 14. Et là, pour lui plaire, il se parfume à la violette et il essaye de sentir bon.
Il n'y a pas d'âge pour s'améliorer, voilà. Si j'ose dire. Elisabeth de Fédot a publié L'eau de rose de Marie-Antoinette et autres parfums de l'histoire aux éditions Prisma. Alors on y découvre Sissi, impératrice devenue célèbre notamment grâce au cinéma et à Romy Schneider. La silhouette de la vraie impératrice, elle était exceptionnelle pour son époque.
Vous
pouvez nous la décrire ?
Elle était incroyablement moderne, elle mesure 1m72, elle pèse 50 kg et elle a un tour de taille de 55 cm.
C'est ce qu'on appelle une taille de guêpe.
Oui, une taille de guêpe et une taille de mannequin, pratiquement. Oui. Elle était d'ailleurs réputée pour cette silhouette extraordinaire. Elle
et se soucieuse tient
très
de sa
droite.
Ligne.
Très. Ah bah oui. Est-ce qu'elle était anorexique ou hyper contrôlante, voilà, mais en tous les cas, oui, elle a un régime extrêmement strict, elle fait très attention, elle ne mange que par petites quantités tout au long de la journée, elle ne mange que de la viande blanche, elle boit du sang de bœuf, elle ne prend que le blanc des œufs aussi.
Enfin, elle fait des masques la nuit, très particuliers d'ailleurs.
Absolument.
Vous vous rappelez la recette ?
Bah, des escalopes de veau, ou alors sinon, elle se fait confectionner par la maison Guerlain une crème à base de fraises écrasées, qui était bonne pour la peau.
Ah, c'est mieux ça. Mais, et autour des hanches, qu'est-ce qu'elle faisait pour garder cette taille de guêpe ?
Il faut imaginer Sissi, qui nous a tous fait rêver, la nuit. Elle ressemble
la nuit,
à quoi ?
Elle n'est pas glamour du tout. D'abord, elle danse sur un lit de camp. Oui. Elle est dans l'hyper-contrôle, si vous voulez, Sissi. Hein, elle est hyper-contrôlante en permanence. Donc, elle est très raide et elle a cette posture qui est un très beau top port de tête, bien sûr, et qui fait aussi sa caractéristique. Mais pour le conserver, elle dort à plat sur un lit de camp. Il n'y a pas d'autre mot. Et elle va ceinturer sa taille de linge imbibé de vinaigre de cidre. Et sur son cou et son décolleté, elle a aussi des linges imbibés d'eau de mer pour lui conserver la souplesse, chasser les rides. Elle avait la peur de vieillir. C'est pour ça qu'elle interdit, après 30 ans, toutes les photographies d'elle.
Merci beaucoup, Elisabeth de Feydeau. C'était passionnant. Vous publiez L'eau de rose de Marie-Antoinette et autres parfums voluptueux de l'histoire. D'ailleurs, voilà le titre en entier. C'est aux éditions Prisma. Voilà, c'est la fin de notre curiosité que vous pouvez réécouter en podcast sur rtl.fr. Ce serait une très bonne idée, par exemple, de faire découvrir cette émission à vos amis, éventuellement à vos ennemis aussi.
On se retrouve demain à 14h. On vous révélera tout ce que vous ne savez pas sur le vin. Et puis Stéphane Bern nous dévoilera les secrets de la Renaissance. Vous allez voir, il y a des châteaux, du sexe, de la religion et plein d'inventions fabuleuses aussi.
Un vrai polar.